Tous les matins, une heure pour poser vos questions et entendre les réponses de nos spécialistes, de nos experts. Le jeudi, on s'intéresse au droit avec des avocats, avec des notaires. Et c'est maître Pierre-Nicolas Ergotte qui est avec moi ce matin, notre notaire. Bonjour maître.
Bonjour.
Pour des questions alors qui peuvent être diverses et variées, on peut parler de contrat de mariage.
Oui, il y a énormément de sujets. Hein. On embalaye tous les jours.
Voilà.
Contrat de mariage, succession, oui. Immobilier.
Quand on veut donner quelque
divorce.
Chose. Divorce. Voilà, quand on veut donner quelque chose, gratifier ses enfants, ses petits-enfants, dons, donations, on peut vous poser des questions également.
Testament,
tout ce qui concerne l'immobilier.
Oui,
même si on a un petit ralentissement quand même en ce moment dans ce secteur-là, mais bon.
On va dire que ce n'est pas la grande joie.
Voilà, les achats, les ventes de terrain, les entreprises également. Tu n'en as jamais eu de chef d'entreprise dans cette émission.
Et pourtant, même si on le sait assez peu, ou on l'imagine assez peu, les notaires sont compétents aussi pour ce qui est cession d'entreprise ou voire transmission aux enfants. Parfois, on transmet son entreprise à ses enfants.
Vous êtes un, je ne sais pas quel est le terme exact, un officier d'État public. Comment est-ce qu'on
dit
vous
officier êtes public ou officier
public,
ministériel.
Ouais. Vous êtes un fonctionnaire de l'État.
On n'a pas le statut de fonctionnaire. D'accord. On est profession libérale avec une parcelle de délégation de pouvoir public.
Ouais. Moi, ça me fait toujours rêver ce métier-là parce que j'ai l'impression que c'est un métier historique.
Alors oui, c'est très ancien. Hein. Ça existait même déjà avant le système républicain qu'on connaît aujourd'hui.
Ouais, ouais.
Mais ça date de très longtemps. Ça n'a pas toujours porté le nom de notaire. Mais effectivement, on est une profession à mémoire.
03 83 36 20 20. Vous avez des questions à poser à maître Pierre-Nicolas Ergotte, notre notaire. Un petit coup de fil. Nous démarrons dans un instant sur France Bleu. Alors, comme toujours dans cette émission, appelez plutôt au début. Parce qu'on se dit j'ai le temps, et puis arrive à la fin de l'émission, il y a trop de questions, et donc on n'a plus le temps de passer tout simplement. 03 83 36 20 20, on vous attend jusque 10h sur France Bleu. Avec notre notaire maître Ergotte, Pierre-Nicolas Ergotte, qui répond en direct à vos questions. 03 83 36 20 20. Maître, nous allons accueillir Émilie, qui nous appelle de la capitale de l'Amérique en Lorraine, c'est Saint-Dié-des-Vosges. Bonjour Émilie.
Oui, bonjour messieurs, dames, bonjour.
On vous écoute.
J'aurais une question donc à poser. J'habite en copropriété et nous avons un règlement de copropriété qui date depuis 35 ans.
Mmh.
Et on voudrait éventuellement remettre adapté aux règles du jour.
D'accord.
Et je voulais savoir si on doit passer par un notaire et éventuellement le prix que ça pourrait nous coûter, s'il vous plaît.
Alors, maître.
Alors, Émilie, l'adaptation d'un règlement de copropriété, effectivement, de temps en temps, elle est obligatoire. La loi, épisodiquement, toilette un petit peu le statut de la copropriété, vient dire, maintenant, la règle nouvelle, c'est celle-là. Alors, la bonne nouvelle, entre guillemets, c'est que la règle nouvelle, elle s'applique. Pour un certain nombre de choses sans que ce soit forcément écrit dans le règlement de copropriété.
Oui.
Et les dispositions qui sont jugées obsolètes par l'évolution de la société, on va dire, elles sont réputées non écrites. Je vous donne un exemple très simple. Vous avez un règlement de copropriété du début du siècle qui vous explique que vous n'avez pas le droit d'avoir des animaux de compagnie dans les logements parce que c'est sale, ça fait du bruit, etc. Aujourd'hui, si vous avez un copropriétaire qui va au tribunal en disant « mon voisin a un chien, c'est vraiment très pénible », on va lui dire « monsieur, c'était marqué dans le règlement de copropriété à l'époque, c'était les mœurs de l'époque. Aujourd'hui, il est tout à fait toléré et même impensable d'interdire des animaux domestiques dans la copropriété. »
Même si c'est marqué dans le règlement.
Même si c'est marqué dans le règlement de copropriété. Après, c'est bien de faire de temps en temps un petit toilettage quand même, comme ça tout le monde sait où il en est. Ceci étant, c'est bien de le faire aussi à l'occasion d'événements particuliers dans la copropriété, comme un copropriétaire qui veut diviser un de ses lots en deux ou réunir plusieurs lots. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Tout simplement parce que ça va coûter le même prix. On va dire que ça peut coûter entre 1000 et 1500 euros de juste mettre à jour le règlement de copropriété.
D'accord.
Pour l'adapter à la nouvelle législation.
Donc,
c'est à peu près ça.
Profiter d'un autre événement de la
Exactement.
Copropriété pour le faire passer.
Oui,
dans
parce
le...
que du coup, ça coûtera la même chose à peu près. Hein.
D'accord. Mais il n'y a peut-être pas ça dans votre copropriété,
non,
Émilie.
Non, définitivement, ce n'est pas ça. Bon, tout est presque bon, mais on voulait la réadapter. Nous avons un parking intérieur et on voulait remettre au clair pour les nouveaux propriétaires, remettre sur le règlement ce qu'il faut s'adapter maintenant. Est-ce que c'est obligé de le remettre dans l'ancien ou de le réajuster en faisant un nouvel règlement?
Alors, dès lors que c'est, on veut que ce soit publié à la publicité foncière, il faut de toute façon passer par un notaire. C'est obligatoire. D'accord. Dès lors qu'on a un acte à publier. Maintenant, on pourrait éventuellement envisager d'adopter des règles particulières, vous évoquiez le parking, dans une assemblée générale.
Oui.
Cette assemblée générale, si elle est valablement convoquée, constituée et qu'elle vote selon les règles de majorité que la loi prévoit, la décision qui sera prise s'imposera. Donc, on pourrait imaginer qu'on peut prendre une résolution qui impose un certain règlement intérieur, par exemple, pour
même
l'utilisation
s'il n'est pas dans
du
le
parking.
Règlement de copropriété.
Ça aura la même valeur.
Ça aura
une
la
décision
même valeur.
Prise par l'Assemblée générale des copropriétaires a la même valeur.
D'accord.
Après, la question, ce sera plutôt son opposabilité à tous les nouveaux entrants dans la copropriété.
D'accord.
Sauf à leur communiquer cette espèce de règlement intérieur ou cette décision, ça va être compliqué de leur dire, au fait, ça s'applique. L'idéal étant de le mettre dans le règlement de copropriété.
Mais est-ce qu'en attendant qu'il se passe quelque chose dans la copropriété qui fasse qu'on aille devant un notaire et que dans ce cas-là, voilà, le prix sera moindre pour le changement du règlement, on ne peut pas afficher une décision.
C'est ce que l'on pensait faire, mais est-ce que c'est valable ?
Oui, alors je vous dis, la seule problématique, c'est de s'assurer qu'à chaque fois qu'il va y avoir un nouvel entrant dans la copropriété, il aura connaissance de ça.
Ouais. Vous êtes combien dans la copropriété, Émilie ?
Nous sommes 28.
Ça commence quand même à faire du nombre.
Ouais. Et il y a du turnover ? Il y a
voilà,
du changement. Ouais.
Oui. Vous avez une, comment dirais-je, pour le prix, est-ce que vous savez ce que ça pourrait coûter ?
1500, on a dit.
Oui, à peu près, moins de 1500 euros avec les formalités, la rémunération du notaire, les impôts que ça va coûter.
À diviser par 28, Émilie.
C'est ça.
Je pense bien. Mais si on fait une AG extraordinaire et qu'on stipule le nouveau règlement verbalement, ça peut peut-être aller déjà pour le moment.
Ben, je vous dis, le seul problème, c'est l'opposabilité à tous les nouveaux entrants. Tous ceux qui seront régulièrement convoqués, à qui on notifiera régulièrement cette décision d'Assemblée Générale, ils y seront tenus, puisqu'ils étaient copropriétaires au moment où ça s'est décidé.
D'accord.
En revanche, si demain, il y a un nouvel entrant et qu'il n'a pas connaissance de cette disposition, à la fois parce qu'elle ne figure pas dans le règlement de copropriété, à la fois parce qu'on ne lui a pas communiqué le PV de cette Assemblée Générale, il pourrait éventuellement s'opposer à ce règlement intérieur ou à ces consignes-là. L'idéal étant à terme de le mettre dans le règlement de copropriété.
D'accord.
Voilà, Émilie.
Merci infiniment. Bonne journée à vous.
On vous embrasse, Émilie. Bonne journée à vous. Au revoir. Moi, j'ai une petite question subsidiaire. Vous avez dit que finalement, quand il y avait un changement dans les lots et qu'on était donc obligé pour la publicité foncière de passer devant un notaire, on pouvait, dans le même temps et pour le même prix, faire changer le règlement. Mais qui est-ce qui paye ce changement ? C'est le propriétaire
Alors, en fait, toutes les règles sont possibles. Si on fait un changement du type qu'Émilie envisageait, on peut tout à fait envisager que le syndic fasse un appel de fonds extraordinaire pour ce coût d'acte particulier.
Ça, j'ai bien compris. Mais si c'est simplement je rachète un bout de cave et puis ou je rachète un bout de palier.
Alors là, il va y avoir plusieurs opérations dans ce règlement de copropriété qui sera un modificatif.
Ouais.
Alors pas juste quand on rachète un lot qui existe déjà, parce que
d'accord.
ça, c'est une vente. Hein.
Ouais, okay.
Mais si, par exemple, on décide en Assemblée Générale de... vous savez, on prend une partie commune dans la cave, on en fait une cave, on la privatise, en fait. Donc il va falloir créer ce lot de copropriété qui n'existe pas dans le règlement, puisque ce sont des parties communes.
Ah.
Et à ce moment-là, c'est le syndicat des copropriétaires,
d'accord.
qui est propriétaire de tout,
j'ai compris.
Qui vient créer un lot privé et qu'ensuite on vend aux copropriétaires concernés.
Et dans ce cas-là, on réécrit le règlement, on en profite pour rajouter les deux, trois trucs qu'on
exactement,
voulait
on le toilette à l'occasion d'une modification.
Et ça revient au même prix.
À peu près.
Vous voulez poser des questions ? C'est clair, merci beaucoup.
Je vous
voulez
prie.
Poser des questions à Maître Argot, notre notaire. Un petit coup de fil ce matin, 03 83 36 20 20. On vous attend bien sûr jusque 10h. Maître Argot, Pierre-Nicolas Argot, notre notaire, répond ce matin à vos questions en direct jusque 10h au 03 83 36 20-20, nous allons accueillir Maître Nathalie qui nous appelle d'Épinal. Bonjour Nathalie.
Bonjour.
On vous écoute.
Bonjour Maître.
Bonjour.
Je me permets de vous appeler parce qu'on est en usufruit avec nos enfants qui sont en nu-propriété. On a fait ça quand ils étaient tout petits pour préserver la maison d'habitation. Et donc là, on voudrait prévoir une convention de quasi-usufruit pour pouvoir récupérer ce capital et pouvoir investir à l'étranger.
Oui.
Par contre, j'aurais voulu savoir si c'était possible, l'investissement à l'étranger, pour refaire un appartement ou une maison à l'étranger, et quels étaient les frais d'imposition pour nous et les enfants.
Vous m'expliquez le mécanisme de usufruit, quasi-usufruit ?
Alors, en fait, c'est la même chose, l'usufruit et le quasi-usufruit, sauf que l'usufruit, ça porte sur des biens immobiliers, le quasi-usufruit sur des sommes d'argent.
D'accord. Et moi, il me semblait que c'était quand il y en avait un des deux qui décédait et...
On peut l'établir déjà, par exemple, en faisant une donation à ses enfants, ou même en achetant directement en démembrement de propriété, constituer un usufruit d'un côté pour les parents, une nue propriété de l'autre pour les enfants. Le principe, il est toujours le même, c'est que l'usufruit, il s'éteint avec le décès. Et donc, du coup, il ne rentre pas dans les biens successoraux.
D'accord.
C'est quand même un avantage conséquent. La problématique, et c'est pourquoi Nathalie nous parle là de quasi-usufruit sur la somme d'argent, c'est que l'usufruit a une valeur qui est fonction de l'âge de la personne qui en bénéficie. Je vous l'ai dit, c'est un droit qui est viagé. Et donc, plus on vieillit, et moins il vaut cher, parce que malheureusement, on se dirige vers le décès, voilà, pour dire les choses clairement.
D'accord.
Donc, quand on vend le bien immobilier dont on n'a que l'usufruit, eh ben, on ne touche qu'une partie du prix qui est équivalente à la fraction déterminée par la loi en fonction de l'âge qu'on a à ce moment-là.
Quel est votre âge, Nathalie, si je puis me permettre ?
J'ai 61 ans.
Et votre mari ?
64.
64, d'accord.
Donc, quand on a entre 61 et 71 ans, ce qui est leur cas à tous les deux, la valeur de l'usufruit, c'est 40%. Donc, si la vente, elle est décidée et elle est acceptée aussi par les enfants, hein, puisqu'ils ont un droit de nue propriété.
Oui, oui.
Donc, ce sont eux qui doivent aussi dire on est d'accord pour vendre. Mais là, j'ai compris que ce n'était pas un problème. Nathalie et son mari ne toucheraient que 40% du prix de vente. Et à l'évidence, ça peut être compliqué de
réinvestir
40% ou de trouver un bien qu'on peut acheter seulement avec 40%
ça,
du prix de vente.
Ça, vous le saviez, Nathalie ?
Bah, j'ai vérifié sur Internet ce qui était possible et c'est pour ça que je suis tombée sur la convention de quasi-usufruit.
Voilà.
Alors, que la restitution du capital de vente.
Il y a deux solutions. C'est soit vous réachetez un bien en démembrement de propriété, mais vous m'avez parlé d'étranger. Donc là, la notion se complique un petit peu puisque le démembrement de propriété n'existe pas forcément dans les autres pays.
C'est-à-dire
notamment
qu'on fait
les
la
pays...
même chose ailleurs,
voilà.
C'est ça.
Mais les pays qui n'ont pas de droit latin ne connaissent pas forcément le démembrement de propriété à la française, entre guillemets, puisque c'est quand même une invention de chez nous. Sinon, effectivement, le quasi-usufruit, il permet de dire bah, on identifie une somme d'argent qui est la propriété des enfants. Et sur cette somme, on va consentir le droit de l'utiliser, d'en percevoir les fruits pour les parents, à charge pour eux de rendre cette somme au moment de leur décès. Alors, vous allez me dire, si les héritiers d'un côté, c'est les mêmes, bah, il n'y a pas vraiment de sujet, mais il est fiscal, en fait, puisque, en fait, c'est une créance. C'est un droit à remboursement que les parents confèrent aux enfants. C'est-à-dire, les enfants mettent la somme que eux ont touchée sur le prix de vente à disposition.
Oui.
Les parents l'utilisent comme ils veulent, mais au moment de leur décès, on va rappeler fiscalement parlant dans ce qu'on appelle la déclaration de succession, qu'il y a eu de l'argent qui a été mis à disposition des parents, mais que cet argent appartenait en nue propriété aux enfants et doit donc leur revenir.
D'accord.
Et donc, ça vient en déduction ou au passif de la succession et ça évite de payer des impôts
mais
sur cette somme.
Mais pardon de poser cette question peut-être un peu, un peu simple. La dette, c'est l'argent qu'on a prêté ou c'est la valeur ? Par exemple, si Nathalie meurt le plus longtemps possible, sa maison va prendre de la valeur. Donc, les 60% vont valoir plus que ce qu'ils valent aujourd'hui.
Oui. Alors, on n'en reparlera pas. Ce qui compte en déduction, c'est la valeur. Mais viendra à l'actif de la succession la maison que Nathalie a achetée avec son mari, par contre.
Ah, d'accord, d'accord, j'ai compris. Nathalie, dans quel pays souhaitez-vous aller ? Vous le savez déjà ?
Plutôt vers l'Espagne.
Alors, c'est toujours un peu compliqué de, évidemment, si c'est possible, de prendre attache auprès d'un notaire pour se renseigner sur le sujet. Mais dès lors qu'on franchit les frontières, il va y avoir des cas qui se compliquent. Alors, qui se compliquent pas forcément en Espagne, mais dans d'autres pays quand même. Le droit est jamais le même partout. En d'autres termes, il y a des pays qui imposent les successions quand le bien est situé sur leur sol. Il y en a qui le font pas. D'une manière générale, on va dire que quand c'est pas fait, la France s'en occupe. Voilà.
Il y a toujours quelqu'un qui s'en occupe.
Pour rester très synthétique et très simple. Voilà.
Oui.
Mais ça vaut peut-être le coup de se rapprocher d'un notaire, Nathalie, pour... c'est Nathalie,
oui,
notre
auditrice. L'autre Nathalie, il y a quelques Nathalie dans cette émission.
Voilà, pour prendre conseil à la fois sur la convention de quasi-usufruit, ça c'est obligatoire. D'ailleurs, faites-le, j'ai envie de vous dire, parce que si vous ne le faites pas, vous ne pourrez pas, pour vos enfants, avoir la possibilité d'inscrire au passif de la succession les sommes qui ont été prêtées.
Donc, c'est une bonne
idée. Donc ça, il faut le faire, absolument. Et puis... prenez attache auprès d'un notaire qui, lui, pourra éventuellement vous faire une consultation sur le droit successoral dans le pays où vous envisagez d'acheter pour être sûr que vous n'ayez pas une trop forte imposition à subir par rapport à ça en cas de succession
ça
pour les enfants.
Ça répond à toutes vos questions, Nathalie.
Concernant les frais, si par exemple on fait une convention de quasi... usufruit,
oui.
Quelles sont les impositions pour les enfants à ce moment-là ?
Alors, il n'y a pas d'imposition à proprement parler, c'est-à-dire pas d'impôt à payer, mais il y a quand même des frais à payer vis-à-vis du notaire qui vous rédigera cet acte-là.
Oui.
C'est un acte qui fait l'objet d'honoraires libres, la convention de quasi-usufruit. Donc, c'est à convenir avec le notaire en question et au moyen d'une lettre de mission qui vous fera préalablement signer. C'est-à-dire qu'il y a, normalement, il n'y a pas de surprise, vous n'arrivez pas chez le notaire pour signer une convention d'usufruit sans savoir ce que ça va coûter. C'est dès lors que vous entreprenez la démarche vis-à-vis d'un notaire, il vous préviendra avant au moyen d'une lettre de mission des honoraires prévisionnels de cet acte que vous aurez le choix d'accepter ou non.
Voilà Nathalie, très bonne journée à vous. Merci pour cette question. Donc, elle était déjà bien renseignée quand même, hein, Nathalie. Dans un instant, nous parlons d'un mur mitoyen.
Ah, bien sûr.
Avec Rose qui nous appelle de Nancy. J'adore les histoires de voisins. 03 83 36 20 20, notre notaire Pierre-Nicolas Hercotte avec nous jusque 10h. Toutes vos questions, 03 83 36 20 20. Avec notre notaire Pierre-Nicolas Hercotte qui répond à vos questions jusque 10h. Et il faut être patient pour passer à l'antenne de France Bleu. Rose est assise sur sa chaise à côté de son téléphone. C'est ça, Rose ?
Non, je suis dans le fauteuil.
Ah, dans le fauteuil.
C'est pas plus mal.
Elle s'est endormie, elle fait une petite sieste en attendant. Voilà, donc. Merci pour votre patience, Rose. On écoute votre question.
Alors, j'habite dans une maison, on est trois propriétaires, et nous avons un jardin qui est privatif pour les propriétaires du rez-de-chaussée. Mmh. Il y a le mur mitoyen du jardin qui s'est effondré. Donc, le voisin, c'est une maison individuelle. Et le mur, donc la maison, elle est de 1923. Et donc, le mur était fait en pierre de taille.
Oui.
Le mur, malheureusement, les trois quarts se sont effondrés il y a pratiquement 2 ans. Mmh. Et le voisin veut le faire à l'identique.
Oui.
On a fait des devis. Un devis qui monte à 17 000 euros. Pour un mur de jardin.
Oui.
Donc, on n'est pas d'accord, quoi. Alors, je voulais justement ma question, est-ce qu'on est obligé de le refaire à l'identique ou pas ?
Alors, le principe du mur mitoyen, c'est qu'il est à cheval sur la limite séparative entre deux propriétés.
Oui.
Et quand c'est comme ça, les deux propriétaires doivent être d'accord. Le principe, c'est effectivement de le refaire à l'identique, mais il faut être d'accord. Donc, s'il y en a un des deux qui n'est pas d'accord, eh ben, ça va poser problème. Donc, on va discuter. Évidemment, dans la plupart des cas, on va essayer de trouver une solution amiable. Mais si ça n'était pas possible, on peut aller jusqu'au contentieux et au tribunal pour décider ce qu'il est nécessaire, que le juge impose une décision aux deux propriétaires concernés pour la réfection de ce mur, identique ou pas. Par contre, il y a un point qui m'a interpellé dans ce que vous m'avez dit. Vous habitez une maison au rez-de-chaussée et il y a d'autres logements au-dessus ?
Oui, donc on est trois propriétaires.
Oui.
Et moi, je suis à l'étage.
Oui.
Mais les voisins du rez-de-chaussée, en fait, le jardin est privatif.
Alors le mur, il est mitoyen pour qui ?
Eh bien, c'est ça. C'est
pour
toute
la copropriété.
Ouais, c'est toute la question. Il faut quand même regarder dans le règlement de copropriété ce qui est indiqué. Par principe, un mur de clôture de la copropriété, il est commun à tous. Hein.
D'accord.
Donc ça veut dire que c'est l'ensemble de la copropriété qui devrait participer à ces frais. Sauf si le règlement de copropriété stipule que le mur est inclus dans le lot
du bas.
Privatif du jardin. Mmh. Auquel cas, là, on parlerait que du copropriétaire du bas.
Mais c'est pas le cas, Rose.
Non, je ne pense pas.
D'accord.
Regardez quand même attentivement le règlement.
Regardez, il en a écrit des règlements de copropriété, c'est pour ça qu'il vous lit.
Un certain nombre.
Voilà.
On est vraiment obligé de le refaire à l'identique. On ne peut pas mettre un grillage pour délimiter, quoi, en fait.
Le principe, c'est que si on est d'accord, on le refait à l'identique. Mais si vous n'êtes pas d'accord, c'est ce que je vous disais. Non, on peut déjà discuter. Et on ne peut pas vous obliger.
Voilà.
Donc là, à ce moment-là, il va falloir s'orienter vers une solution. Alors, on a tout un tas de choses, l'amiable, la conciliation, la médiation, etc. Mais à l'extrême, on prend un avocat chacun, on va voir le juge, et puis c'est le juge qui décidera.
Le voisin ne veut rien entendre.
Bon, il dit que sa maison aura plus de valeur.
Oui, c'est vrai que c'est joli, un mur en pierre, mais bon, c'est cher. Quoi.
Oui.
Non, mais...
oui, 17 000, je sais, 17 000 pour un mur, ça fait cher. Quoi.
Voilà, c'est comme ça. Un mur de jardin que je ne toucherai jamais, parce que bon, j'en ai rien à faire, on est au deuxième étage d'un mur de jardin.
Oui, bien sûr. Et alors, pardon de poser une question, encore une fois, un peu idiote, mais dans ce cas-là, on divise par 4 ou on divise par 1 ou 3 ?
Non, c'est chaque propriété qui paye la moitié. Donc le propriétaire de la maison voisine qui veut absolument faire un mur en pierre de taille aura la moitié à
donc
sa charge.
Donc 8 500,
et on répartira entre les copropriétaires de la copropriété concernée.
Ok,
voilà,
okay,
la somme restante.
Merci Rose.
c'est au tantième, quoi.
Voilà, c'est, voilà, c'est ce que j'allais dire. C'est un peu plus compliqué que 3 000 chacun. C'est au répartition au tantième entre chaque copropriété. Bon. Voilà.
Merci, Rose.
Ben, merci beaucoup.
Bonne journée à vous.
Bonne journée à vous.
Au revoir. Dans un instant, sur France Bleu, nous irons chercher Jean-Pierre, qui est à Usmain, qui posera sa question à notre notaire, Maître Pierre-Nicolas Ergotte, au 03 83 36 20 20. Avec notre notaire, Maître Ergotte, Pierre-Nicolas Ergotte, qui répond en direct à vos questions, nous allons accueillir Jean-Pierre, qui nous appelle d'Usmain. Bonjour Jean-Pierre.
Oui, bonjour.
Expliquez-nous votre nœud familial. Que se passe-t-il ?
Eh ben voilà, j'ai eu mes frères, nous étions 5 dans la famille. Mmh. L'héritage de mes parents, je n'ai rien eu, car mes parents avaient une maison en Moselle. Ils avaient une ferme à côté de Neufchâteau, avec des terrains. Donc, mon frère a fait vendre la maison en Moselle. Mon autre frère a récupéré le terrain. Donc, moi, je n'ai rien eu. Vous comprenez ?
Oui. Et le notaire a dit quoi ?
Tout ça doit être partagé en 5.
Et le notaire a dit quoi, Jean-Pierre ?
Eh ben, le notaire a dit que c'est le tribunal qui a pris la décision.
D'accord. Une dernière petite question, avant d'écouter la réponse de notre notaire. Ça date de quand, cette histoire-là ?
Oh ben, l'histoire-là date d'il y a 5-6 ans.
D'accord. Alors, maître.
Je peux vous poser une question complémentaire, Jean-Pierre ? Si le tribunal a décidé d'un partage, c'est que vraisemblablement, vous ne vous entendiez pas.
Oui, on ne s'entend pas, mais c'est pas une raison que le tribunal n'a rien à voir là-dedans.
Oui, il l'a déshérité.
Alors, c'est pas possible.
C'est pas possible. Non, c'est pas possible. D'accord.
S'il y a un partage qui est décidé par le tribunal, c'est un partage. Donc d'accord. Ça veut dire qu'on attribue, sauf dispositions particulières prises par les parents, mais qui ne peuvent pas excéder la réserve, enfin tout ce qu'on a déjà évoqué.
Et qui ne peuvent pas déshériter Jean-Pierre.
Les enfants. Ouais. Il y a un droit pour chacun à recueillir au moins sa part dans la succession. Maintenant, c'est pas forcément la maison et le terrain. C'est-à-dire que le tribunal pourrait dire à tel frère la maison, à tel frère le terrain, à charge pour eux de verser une somme équivalente aux autres frères pour compenser le fait qu'eux n'aient pas eu d'attribution foncière. On partage pas forcément en nature. C'est-à-dire qu'on n'est pas forcé de dire la maison, surtout quand les gens s'entendent pas, vous imaginez, si on leur dit c'est facile, prenez chacun un sixième de la maison ou un septième.
Ils sont cinq.
Ah oui.
Cinq
frères. Oui. Si chacun prend un cinquième puis qu'on s'entend pas, ça va être compliqué et puis ça va se reterminer devant le tribunal quand il faudra vendre.
Mais Jean-Pierre, il aurait dû avoir un cinquième du gâteau total.
En fait, on prend la valeur de tous les biens, on divise en 5, puis si on attribue par exemple une maison à un des frères et que cette maison excède son cinquième, eh ben, il va verser de l'argent aux autres pour compenser la maison qu'il a reçue.
C'est ce qui a été fait, Jean-Pierre ?
Mais maître, on a été voir le notaire à Balébam. Le notaire nous a dit, comme je vous ai dit, c'est le tribunal qui a pris les décisions.
Oui, mais est-ce que vous avez touché quelque chose, Jean-Pierre ? Est-ce que vous avez touché de l'argent ?
Oui, excusez-moi. Est-ce que vous ne pourriez pas essayer de contacter...
Non, Jean-Pierre, on ne peut pas faire. On peut répondre à votre question, mais on n'ira pas plus loin. Mais est-ce que vous avez, vous, eu de l'argent, une partie de l'héritage, ou vous n'avez rien eu du tout ?
Moi, j'ai rien du tout.
Mais c'est fou, ça.
Même pas une soule, pas une somme d'argent qui aurait été versée par un de vos frères, ou par le notaire, entre autres.
La maison que mon frère a vendue, parce qu'il l'a revendue, au départ, elle valait 60 000.
Non, 40 000,
et puis il a revendu 60 000.
D'accord.
J'ai envie de dire tant mieux pour lui, mais de toute façon, ça, c'est pas le partage. C'est ce qu'il a fait après du bien qu'il a reçu dans le partage.
Est-ce que Jean-Pierre, qu'est-ce qu'il doit faire, Jean-Pierre, pour essayer de faire entendre
ses... À mon avis, il y a un quiproquo. Il faut se rapprocher du notaire ou d'un autre notaire
à proximité de lui. Il peut changer de notaire,
bien sûr. Ouais. Et puis faire réexaminer un petit peu ce qui a été fait. Ouais. Il y a sans doute eu un quiproquo avec le notaire. Moi, je pense qu'il y a quand même une soulte qui a peut-être été versée ou elle est peut-être en attente.
Le notaire.
Ce serait curieux 6 ans après, mais il faut effectivement éclaircir cette situation. Et retourner voir même le notaire qui a fait le partage et se faire réexpliquer la chose.
Et s'il y a un jugement, Jean-Pierre, il a le droit de le voir, ce jugement ?
Bien sûr, mais tout le monde a le droit de le voir, tous les concernés.
D'accord.
Étonnant qu'il n'en ait pas eu communication.
À qui il demande si ce n'est pas au notaire ?
Il peut demander au tribunal.
Au tribunal ? D'accord.
Oui.
Bon. Voilà, Jean-Pierre.
Maître, est-ce que vous ne pourriez pas contacter...
Non, ça, Jean-Pierre, il ne peut pas faire. Ça, c'est non. Ça, c'est à vous de le faire. Voilà. On vous embrasse. Merci, Jean-Pierre. Bonne journée à vous. Nous accueillons Cyril qui nous appelle de Nancy. Bonjour, Cyril.
Bonjour, messieurs, dames. Comment allez-vous ?
Bien, et vous ? Par ce beau temps. J'aime bien dire par ce beau temps parce que voilà. Ah, on a perdu Cyril.
Et du coup, il a raccroché.
Ah non, on l'a perdu tout simplement. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va écouter une chanson Cyndi Lauper, Time After Time, et on se retrouvera juste après sur France Bleu avec notre notaire Pierre-Nicolas Ergotte et vos questions au 03 83 36 20 20. Nous sommes avec notre notaire Pierre-Nicolas Ergotte. Il répond jusque 10h à vos questions. Alors, nous avons perdu Cyril qui a eu un petit problème de réseau, mais nous avons gagné Michel qui nous appelle de Nancy. Bonjour Michel.
Bonjour Nathalie, bonjour maître.
Non, on vous entend assez mal. Est-ce que vous parlez bien dans votre téléphone, Michel? Oui.
Oui.
Voilà, on va essayer de vous capter un petit peu mieux. Et racontez-nous cette histoire qu'on a un petit peu du mal à cerner avec notre notaire. Elle est comment, votre maison, Michel?
Ma maison, c'est une maison de ville.
Oui.
Mitoyenne. Vous savez, dans une rue, il y a toutes les maisons qui sont accolées.
Oui, mitoyenne, ok.
Une maison mitoyenne. Elles sont collées, les maisons.
Oui.
J'ai toujours entendu dire que tout ce qui était en dessous de la toiture appartenait au propriétaire.
Parce que vous êtes combien dans la maison?
On est que moi et mon mari, mais la maison à côté, les voisins par exemple, ils sont mitoyens avec nous.
Oui.
Et leur porte d'entrée, elle est recouverte de notre toiture à nous.
Alors, c'est pas la toiture qui fait la limite de propriété. Michel, c'est la parcelle cadastrale au sol. C'est-à-dire que pour savoir si la porte d'entrée de vos voisins se situe chez vous ou pas, ce qui peut arriver, on y viendra après, mais pour savoir ça, il faudrait... Alors, la solution, la seule incontestable, en fait, c'est de faire venir un géomètre expert qui va déterminer, par rapport au plan cadastral, où est située la limite de propriété, et si la porte... Elle est de l'autre côté de la limite, c'est-à-dire chez vos voisins, la porte leur appartient. Ce qui peut très souvent se passer pour les maisons mitoyennes et maisons en ville, c'est que votre toiture, par contre, déborde sur la parcelle du voisin.
Ça, c'est normal.
On appelle ça un débord de toiture. C'est une servitude apparente, puisqu'en fait, les eaux, parfois, elles ont besoin de déborder un petit peu de la maison pour s'écouler, pour pas venir tacher les façades,
faire les
infiltrations.
Mais ça ne veut pas dire que ce qui est en dessous de la toiture appartient à Michel.
Du tout.
D'accord.
C'est peut-être plutôt l'inverse, c'est plutôt le toit de Michel qui est peut-être sur la parcelle des voisins. Mais c'est pas très grave, c'est encore une fois une servitude apparente. Alors, si on le construit, il faut demander l'accord des voisins, mais si ça existe depuis toujours, c'est ce qu'on appelle une servitude apparente.
Les maisons, elles ont plus de 100 ans.
Mais Michel, pourquoi est-ce que vous posez cette question? Parce qu'il y a un litige sur la porte?
C'est pas qu'il y a un litige, parce que justement, il y a la porte du mortis directement. Mais moi, j'ai une chambre qui donne justement au-dessus.
Oui.
Et ils ont ouvert une bouche d'aération. Alors que quand ils font des trucs, tout ça, si les odeurs montent dans la chambre.
Si la chambre, elle est vraiment juste au-dessus de la porte, là, il y a un problème d'imbrication entre les deux immeubles.
Oui.
La limite cadastrale, elle est au sol et elle s'étend en hauteur en ligne droite, vous voulez. Donc, à partir du moment où on a un bout de la maison de Michel qui se situe d'un bout de la maison du voisin, c'est que là, manifestement, juridiquement, il y a quand même un problème. Alors, si ça a toujours existé, on ne peut pas le remettre en cause. Mais pour autant, là, il y a utilité peut-être de contacter à la fois un géomètre, à la fois un notaire, parce qu'il va falloir régulariser la situation. Sinon, le prochain deux voisins va vouloir vendre, ça va quand même poser problème.
Et si le voisin a installé donc une bouche d'aération et que les odeurs montent dans la chambre de Michel et qu'elle est chez elle, qu'est-ce qui se passe?
Non, il faut s'accorder avec le voisin pour essayer d'éviter ce genre de nuisance.
Oh, mon pauvre Michel.
C'est tout l'intérêt de régler juridiquement la situation en faisant ce qu'on appelle une division en volume. On va diviser en deux volumes les deux maisons sur deux parcelles différentes et ça permettra d'établir une sorte de règlement entre les deux copropriétaires pour gérer les conflits.
Donc la réponse, Michel, c'est que la propriété, elle se fait par le sol et pas par le toit. J'ai bien compris.
C'est ça.
Alors, par le sol et pas par le toit. D'accord.
On vous embrasse, Michel. Bonne journée.
Merci.
Au revoir. Dans un instant, les toutes dernières questions, vous pouvez encore nous appeler à notre notaire Pierre-Nicolas Ergotte, 03 83 36 20 20. Avec maître Pierre-Nicolas Ergotte, notre notaire, qui répond direct à vos questions jusque 10h. Ce sera la dernière question, maître, de Frédéric, qui nous appelle de Toul. On revient à un mur mitoyen, Frédéric.
Oui, bonjour.
Oui.
Bonjour.
Qu'est-ce qu'il a comme souci, votre mur?
Il est tombé. Oui. C'est un mur de cour arrière, de cour mitoyenne. Il n'y a que moitié du mur qui est tombé. C'est la même chose que Rose, mais il n'y a que moitié du mur qui est tombé du côté du voisin. Bon, après, il n'y a pas de problème avec le voisin.
Oui.
Mais les assurances ne veulent pas en tenir compte par rapport à la sécheresse, surtout en ce moment. Alors, donc, je veux savoir si c'est... Parce que là, il y a un devis de 30 000 euros alors pour une petite surface de, on va dire, 10 mètres carrés à refaire.
Ouais. Donc, qui doit payer ? Est-ce que c'est celui qui a eu la malchance de voir le mur tomber de son côté ou...
Non, malheureusement, non. Le mur mitoyen, il porte bien son nom. S'il est mitoyen, c'est qu'on doit payer tous les deux.
Ok.
D'accord. Non, mais il n'y a pas de souci, c'est juste pour savoir.
Alors, c'est embêtant. Je pense qu'il y a, probablement un problème structurel, puisque pour un devis pareil, si c'est juste une réfection du crépi, entre guillemets...
Non, le mur, c'est un mur en pierre, en grève, il s'est ouvert en deux, quoi.
Oui, c'est ça. Donc, il y a...
du côté du voisin, quoi.
Oui, il y a probablement un peu plus que quelques pierres à remettre.
Voilà. Ah
Ouais, alors, le principe du mur mitoyen, c'est celui qu'on a exposé tout à l'heure. À partir du moment où il est bien sur la limite séparative, il est effectivement mitoyen. Et ça veut dire qu'on se met d'accord, tous les deux, dans la plupart des cas, à l'amiable pour refaire le mur. Et c'est s'il y a un conflit qu'après on passe à la phase médiation, éventuellement justice.
Il n'y a pas de conflit, ça vient de tomber.
Ça vient de tomber dans tous les sens du terme. Bon. Merci Frédéric, bonne journée à vous.
Il y a un devis de 30 000 euros, mais je pense que c'est un peu gonflé. On attend les autres devis, mais...
Oui, vous pourriez
faites-en faire plusieurs.
Faites-en faire plusieurs et puis discuter avec votre voisin. L'intérêt de tout le monde, c'est qu'effectivement, on fasse baisser un peu les prix.
Merci Frédéric.
Et dans tous les cas, c'est moitié-moitié.
C'est moitié-moitié.
Oui,
merci Frédéric.
Et rien.
Bonne journée à vous. Au revoir. Autre petite question sur le mur mitoyen. Le mur, s'il n'est pas mitoyen et qu'il tombe et que le voisin ne fait rien, est-ce que je peux le forcer ?
Alors, il y a plusieurs solutions, oui. On pourrait soit effectivement le faire forcer en justice à payer les frais de son mur, soit éventuellement faire les travaux et ensuite lui faire adresser la facture.
Mais vaut mieux le prévenir quand même.
L'idéal, c'est même le prévenir et puis qu'il s'en occupe parce qu'il est quand même responsable de son mur.
Et s'il y a un danger, il est obligé de faire quelque chose ? Je peux le forcer.
C'est pareil, on peut aller en justice, voire en référé si c'est vraiment très urgent. Pour un mur, ce serait quand même étonnant pour le faire condamner à prendre en charge les frais de réparation de son mur, voire si c'est encore plus urgent que ça, faire les travaux soi-même et lui envoyer la facture ou le faire condamner en justice à lui faire payer la facture.
Dans un monde idéal, il n'y aurait pas de problème, mais j'imagine que vous envoyez souvent des petits problèmes de litige entre
sinon
voisins.
Sinon, on n'existerait pas.
Voilà, puis il faut garder son sérieux.
Oui, toujours.
C'est bien, toujours. Voilà. Maître Pierre-Nicolas Ergotte, notre notaire, qui revient très régulièrement sur France Bleu. Vous avez rendez-vous tous les 15 jours avec un notaire sur France Bleu. Donc, si vous n'avez pas pu poser votre question ce matin, pas de panique. On le refera d'ici quelques semaines et vous réécoutez cette émission sur francebleu.fr. Merci beaucoup, maître.
Merci à vous.
Bonne journée à vous. Dans un instant, nous ouvrons la cuisine de France Bleu Lorraine. Nous allons parler des céréales, le quinoa, le blé et tout ce que vous pouvez manger sans savoir trop le cuisiner. On en parlera avec Julien Picard, notre chef, dans un instant sur France Bleu. On attend vos recettes au 03 83 36 20 20.